Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h41, on fait un point sur la presse avec Benjamin Glaise.
Oui, avant d'avoir Sud-Ouest en ligne dans un instant, la revue de presse d'une façon générale, avec un visage qui a la une, par exemple, du Parisien aujourd'hui en France, hein, Benjamin, c'est celui du brigadier Éric Masson.
Et difficile de ne pas être touché en voyant ce visage souriant, bienveillant de ce policier tué avant-hier soir, donc lors d'un banal contrôle antidrogue à Avignon. Sur cette photo que s'est procuré le Parisien, cet agent, papa de deux enfants, posé alors en uniforme avec son calot sur la tête. Sa mort plonge les forces de dans le deuil et la colère. L'indignation, c'est d'ailleurs le titre de Midi Libre. La colère en ce qui concerne la une du Figaro, la colère qui monte encore d'un cran dans les rangs des policiers. Les habitants de leur côté dénoncent des trafics qui gangrènent le centre-ville d'Avignon. Le Figaro qui publie également une interview de Gérald Darmanin. Ceux qui achètent de la drogue, financent et arment des meurtriers. Ce sont les propos du ministre de l'Intérieur avec ce chiffre, choc, pour étayer son propos. Des armes sont saisies dans une affaire de drogue sur trois.
Oui, une image choc aussi à la une de la Provence. Celle oui. D'un bizutage au sein de l'armée.
Avec ce titre, un bizutage au bout de l'enfer. Sur la photo, on découvre un militaire attaché à un poteau sous une immense croix, en l'occurrence une cible d'entraînement au sol pour les pilotes de l'armée de l'air. Les faits seraient déroulés en Corse, selon la Provence. Ce militaire aurait passé 20 minutes ligoté sous les tirs des canons des Mirages.
Oui, c'est ça. La vaccination aussi contre le Covid à la une de certains journaux, notamment de la Dépêche du Midi, avec ce titre, Macron accélère.
Oui, nouvelle accélération, pourrait-on dire, avec des piqûres possibles pour tous les Français désormais de 50 ans dès lundi et même sans limite d'âge à partir de mercredi, dans le cas bien sûr où il resterait des doses disponibles la veille pour le lendemain. Le chef de l'État ouvre donc les vannes de la vaccination dans l'espoir d'accélérer la campagne des réouvertures en France.
Oui, merci à vous Benjamin Glaise. On va dans le Sud-Ouest avec Adrien Vergnol, chef des informations à Sud-Ouest. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour.
Bonjour. Évidemment, on va dans le Sud-Ouest. Il y a eu ce drame de Mérignac hein, qui a frappé la France entière, hein, qui est choquée après ce qui s'est passé. J'imagine que vous y revenez ce matin dans le Sud-Ouest.
Hein. Oui, on y revient assez largement. Hein, ce féminicide atroce, hein, cet homme qui tire sur son ex-compagne et qui la l'immole par le feu, qui la brûle avec de l'essence. Ça a ému à peu près tout le monde. Hier, la ministre de la Cohésion, Marlène Schiappa, est venue à Mérignac pour visiter à la fois le commissariat et à la fois dire des mots assez forts sur la lutte contre les violences conjugales.
Oui, c'est ça. Et pourtant, il y a beaucoup de questions hein, dans cette affaire. Quoi. Questions évidemment sur le suivi judiciaire, questions aussi sur le suivi policier, puisque Chaynez avait déposé plainte mi-mars.
Voilà, exactement, tout à fait. C'est d'abord ce qu'a rappelé la ministre aux policiers en disant « Les femmes victimes de violences ont besoin de vous hein, », histoire de bien montrer qu'il ne faut pas opposer tout le monde. Nous, on essaie aussi de mener cette enquête, hein, de la même manière que la justice, d'une certaine manière, en essayant de comprendre comment cet homme qui avait été emprisonné, qui est sorti de prison, a pu être suivi par le service pénitentiaire, tout en faisant déjà l'objet d'une plainte et en étant recherché par la police. Il y a un dysfonctionnement qui semble vraiment patent là-dedans, et tout le monde essaie de comprendre, au point que les ministères de la Justice et de l'Intérieur ont saisi les services d'inspection internes pour comprendre. C'est un rapport qu'on attend, qui est attendu, qui sera rendu le mardi.
Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est le gros sujet de Sud-Ouest ce matin. Autre sujet à la une, Adrien ?
Oui, tout à fait. Oui, on a été à la sortie de ces vaccinodromes, notamment celui de Bordeaux, pour rencontrer tous ces gens qui attendent un vaccin, qui attendent ce qu'on appelle un peu joliment les doses orphelines. Hein. Tous les soirs, après la campagne de vaccination, il reste des doses. Des gens attendent, des patientes. On était à la rencontre de ce petit peuple-là, une centaine de personnes tous les soirs, qui sont là dans l'espoir d'avoir une dose et un vaccin, alors qu'ils n'ont pas encore ils sont pas encore dans le calendrier, ouais. même si vous l'avez dit, Emmanuel Macron simplifie les choses à partir de lundi.
Oui, c'est cela. Merci beaucoup Adrien Vergnol d'avoir été avec nous en direct ce matin, chef des informations à Sud-Ouest. Je sais que vous êtes fortement mobilisé avec l'ensemble de ces informations et notamment ce drame de Mérignac et l'inspection qui est menée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Et on continue avec nos éditorialistes du jour, ce petit déjeuner de l'actu à laquelle on vous propose de participer au 0826 300 300. Eric Revel est avec nous et Philippe Bilger. Bonjour Philippe.
Oui, et Christine Bouillot. Bonjour. Et Christine Bouillot aussi, pour revenir sur le drame de Mérignac. Philippe Bilger, alors revenons en fait sur l'État, hein, notamment avec notamment cette histoire d'Avignon, parce qu'il y a eu la mort du policier, et il y a plusieurs affaires liées aussi à la justice, parce que quand les institutions régaliennes ne fonctionne pas ou alors mal, du coup, les voyous ne sont plus vraiment aussi intimidés quoi, derrière. Hein.
Bien sûr. Alors, il me semble que dans les dernières années, il y a eu deux moments clés qui ont marqué une montée terrifiante de l'insécurité. Le moment où il y a quelques années, les pompiers ont dû être protégés dans les cités. Et depuis quelque temps, le fait que des policiers qui sont censés nous protéger doivent être eux-mêmes protégés. Et donc, bien sûr, il y a la tragédie criminelle d'Avignon. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que les transgresseurs, les délinquants, les voyous n'ont plus peur. Et ça renvoie d'abord à une sorte d'immoralité collective d'une minorité des citoyens, mais aussi à la faiblesse des institutions régaliennes. Je suis persuadé que si la délinquance, qui est tout de même une minorité en France, avait peur de l'État et des autorités régaliennes, eh bien, il y aurait probablement moins de tragédies criminelles.
Mais par exemple, comment pourrait-on faire ? Oui, c'est ça, Philippe. Oui.
Mais prenons l'exemple non seulement de la police qui ne dispose pas d'assez de moyens, mais de la justice, Patrick Roger. Imaginons que cette institution un jour exécute véritablement les peines qu'elle prononce. Je crois qu'elle pourrait alors créer un climat de peur légitime et d'intimidation. Je ne dis pas que toute la délinquance et la criminalité d'un coup seraient éradiquées, mais du moins on aurait en amont quelque chose qui serait tellement structuré, efficace et dissuasif qu'en aval, peut-être, on aurait moins de tragédies comme à Avignon. Avignon n'étant que la suite, malheureusement, d'une série de crimes qui prennent trop souvent pour cible la police. Parce que ce qui a changé aussi, c'est qu'on n'attend plus la police pour lui résister éventuellement. On va la chercher, on n'hésite pas à tirer sur elle.
Oui, et alors c'est une question, Philippe, de fermeté, parce que hier nous avions un policier qui a spontanément appelé au 0826-300-300 Sud Radio et qui disait, oui mais vous savez, il y a des moments, on arrête des dealers, on les revoit quasiment pour certains, enfin des trafiquants, ils sont suspectés, on les revoit le lendemain dans la rue. Alors c'était peut-être une image et un raccourci un peu rapide, mais tout de même quoi.
Alors, il y a deux choses, Patrick Roger. D'abord, il faut déjà souhaiter que les personnes qui commettent des délits et des crimes soient interpellées et donc déférées à la justice. Ensuite, je veux bien croire qu'il y a certaines pratiques judiciaires qui émeuvent, voire indignent les policiers, parce qu'il n'y a probablement pas assez de fermeté judiciaire dans certaines situations. Je ne dirais pas que la justice est globalement laxiste, ce serait absurde, mais je comprends qu'il y a certaines pratiques qui peuvent indigner les policiers. Et il est clair, et c'est un problème central, qu'il y a un gouffre entre l'autorité judiciaire et l'institution policière. J'ai parfois l'impression d'une totale incompréhension, comme si la justice avait forcément l'esprit propre et la police les mains sales.
Oui. Restez avec nous, Philippe Bilchard, parce que il y a, vous avez parlé beaucoup d'Avignon, mais il y a aussi ce drame de Mérignac avec des questions qui se posent. Christine Bouillot est avec nous. Christine.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez suivi à Mérignac, évidemment, depuis 48 heures, tout le déroulement de ce drame terrible, hein, avec la mort de cette femme, Chinaise, donc tuée par, brûlée vive, hein, dans des conditions, en fait, atroces, donc ce crime, par son compagnon, Mounir. Là, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent sur le suivi judiciaire. Hein, je rappelle qu'il avait été condamné, mais qu'il est sorti ensuite en octobre pour un placement en fait extérieur, comme l'on dit. Il n'a pas pu avoir le bracelet parce que eh bien, ce n'était pas encore, le bracelet anti-rapprochement n'était pas encore entré en vigueur quand lui avait été condamné. Et puis ensuite, donc ça c'est du côté judiciaire où on peut se poser un certain nombre de questions sur le suivi. Et puis ensuite, la question policière aussi, puisqu'elle avait porté plainte, elle avait été attaquée, menacée d'enlèvement il y a au mois de mars. Hein.
Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas de suivi et qu'il n'y avait pas eu d'actions qui ont été menées. C'est que l'enquête administrative, l'inspection qui a été diligentée hier par les deux ministères de l'Intérieur et de la Justice, devra dire où est-ce que se trouve le dysfonctionnement entre services de police et services de justice. On va reprendre les faits. Quand il sort de prison, il a obligation de soins et aussi de suivi, ce qu'on appelle le suivi de probation. Et il se rend à 3 rendez-vous de suivi de probation à l'issue de sa sortie de prison. Sauf que, entre-temps, son épouse, Shaïnaz, dépose plainte. Et donc, il est à ce moment-là recherché. Et il est effectivement recherché, mais introuvable, par les policiers de Mérignac et de Talence qui s'occupent de l'enquête. Donc, il y a au moins 2 rendez-vous où il se rend devant le responsable de son suivi judiciaire, à savoir le 26 mars et le 14 avril. Il va à ces rendez-vous. Donc, il suit à la lettre ces rendez-vous. Et à ce moment-là, il est déjà et il est recherché pour avoir porté des coups sur sa compagne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que ça veut dire que la plainte de son épouse, Shaïnaz, n'a pas été transmise au service de probation? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un dysfonctionnement de ce côté-là? Voilà ce que l'enquête devra déterminer et rendra ses conclusions mardi prochain. Donc, on ne peut pas dire que personne n'a rien fait. Il y a eu visiblement quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est ces questions-là que devra déterminer effectivement l'enquête judiciaire.
Christine Bouillot, il y a eu des choses de fait, mais peut-être pas suffisamment. Déjà, il y a des interrogations de beaucoup d'associations. Pourquoi il a été quand même libéré, sachant qu'il avait été condamné à 7 reprises et qu'il y avait des menaces. Donc, cette libération anticipée avec ce placement extérieur pose en fait quand même question pour beaucoup d'associations.
Dans sa libération, enfin, en tous les cas, quand il est libéré, il a interdiction de rentrer en contact et de s'approcher et de venir dans la maison. Il a une obligation de soins aussi. Il a une obligation également de se soumettre de soins. Et je ne veux pas faire.
Oui, mais c'est vrai, Christine. Mais l'interdiction, comment elle peut se concrétiser à partir du moment où vous n'avez pas de bracelet, où personne ne le suit?
Alors, c'est une question de moyens aussi. C'est-à-dire qu'en France, il y a 1000 bracelets pour l'ensemble des... Aujourd'hui, donc, vous pouvez effectivement, pour le dossier des violences conjugales. Hein, donc, et en plus de ça, au moment où il est condamné, la procédure n'existe pas. Donc, il ne peut pas en avoir. Le téléphone de grand danger, il y en a 5 en tout et pour tout sur le département de la Gironde. Donc, on voit déjà qu'il y a encore un effort à faire au niveau des moyens. L'arsenal judiciaire, si vous voulez, il est, semble-t-il, encore à perfectionner, mais il est déjà là. La seule et vraie question, c'est comment vous suivez un individu individuellement, qui tout d'un coup, parce que ce qui ressort aussi de la conférence de presse de la procureure de Bordeaux hier, c'est que cet homme a tendu un guet-apens qui a duré 20 minutes à sa femme. Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il a attendu et il l'espionnait.
Mais ce n'est pas une surprise pour le voisinage, pour même Shaïnaz, malheureusement, elle-même, elle le disait, elle le craignait, elle en parlait en fait à ses voisins, elle en a parlé, elle est allée déposer plainte. Quoi.
Donc, on peut prendre aussi la problématique aussi de la victime, c'est-à-dire que la victime ne voulait pas déménager, ne voulait pas s'éloigner de son quartier aussi, ce qui aurait peut-être permis d'éviter que lui la traque, la suive et l'attende surtout dans cette rue et dès qu'elle s'approche de lui, il lui tire dessus. Et même si un voisin intervient, parce que c'est ça qui ressort aussi de l'audition, le voisin intervient à ce moment-là, mais il continue à l'asperger d'essence et il jette un briquet. Donc à tout moment, il est absolument déterminé à passer à l'action. Mais ce qu'on peut aussi se poser comme question, c'est est-ce qu'il aurait fallu imposer à la victime de finalement sortir du quartier, se mettre à l'abri dans un logement qui soit sous la protection des forces de justice et de police, et dans le même temps, donc continuer à essayer de mettre la main. Mais le vrai débat, la vraie question,
ce soit
de dysfonctionnement
de partir aussi, c'est ça le problème. Ça.
Il y a cette question que pose Cécile. Il y a quand même Christine et Philippe Bilger, je ne sais pas si vous pouvez répondre sur ce rapport aussi entre police et justice. À partir du moment où il y a quand même un suivi normalement par la justice et que la femme va déposer plainte et que ensuite les policiers n'arrivent pas parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas son téléphone et qu'ils vont toquer 2 fois à la porte et qu'il n'est pas là et que lui continue d'avoir une obligation de soins, là il y a un problème quand même, quoi. Non, Philippe
Mais
Bilger.
Patrick, la plupart du temps, vous venez très bien d'identifier le problème, c'est qu'on peut penser que formellement, au regard de la multitude de ces affaires, des décisions normales sont prises, mais qu'on constate que leur exécution est très difficile, faute de moyens, faute de conscience professionnelle, faute de constance. Et ce qui me frappe, c'est que lorsqu'il y a de graves dysfonctionnements, lorsqu'on les identifie, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction. Moi, je crois véritablement, on verra quel est le moment où il y a une grave faute dans l'affaire dont on parle à l'instant, mais il est évident qu'en plus de la crise des moyens, il y a aussi la responsabilité personnelle de ceux qui sont chargés de faire appliquer des décisions. Et si ceux-là faillissent, eh bien on a des tragédies comme celle dont on vient de parler.
Oui, un dernier mot, Christine Bouillot, avec vous.
Oui, simplement pour dire que qu'effectivement l'enquête rendra sa décision, enfin en tous les cas l'inspection rendra sa décision, mais il semble pratiquement acquis hein, que c'est le transfert d'informations entre la plainte de Chaynez et le fait qu'il ait été vu par le service de probation après cette plainte-là, c'est là que se déterminera effectivement le degré de responsabilité, parce que ça aurait pu effectivement être un élément pour l'interpeller, en tous les cas lui demander des comptes après sa
essayer de le retrouver.
Bah, il vient au rendez-vous, Patrick. Ouais. Il vient. Ah,
non, mais je veux dire par les policiers, quoi. Bah parce qu'il va à l'autre rendez-vous, c'est par les policiers, quoi, bien sûr.
Oui, et le service de probation aurait pu dire on a rendez-vous avec lui, venez le chercher. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup, Christine Bouillot, Philippe Bilger. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, on pose justement aussi cette question hein, où est la responsabilité, en fait, les défaillances selon vous, justice, police ou autre. Vous pouvez aller mettre vos commentaires, bien sûr, nous en parlerons de nouveau dans les débats Sud Radio tout au long de la journée. Dans un instant, on va s'intéresser de nouveau à la vaccination, mais également, puisque c'est l'une de nos questions du jour, et puis la reprise, quoi. Les traiteurs se posent évidemment beaucoup de questions, l'événementiel, bien sûr. Donc nous recevrons quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'événementiel dans un instant, Cécile.
Oui, Christophe Pingas sera avec nous, coprésident de l'agence d'événements Shortcut. Et puis on parlera d'un métier assez peu connu qui fait rêver beaucoup. C'est le métier d'espion. Olivier Mas sera avec nous aux alentours de 9h15, 9h20. J'étais un autre et vous ne le saviez pas. Vous saurez tout sur les espions, sur les légendes, comme on dit, vous savez.
Ouais, le bureau des légendes, par exemple. Tout à l'heure à 9h15.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, c'est le Grand Matin Sud Radio, merci d'être avec nous. Après ce qui arrive, cette deuxième étape du déconfinement, quelques perspectives pour l'événementiel. On est avec Christophe Pinguet, bonjour, vous êtes coprésident de l'agence d'événements Shortcut. Mais juste avant, vos appels 0826 300 300 avec Jean-Baptiste qui nous appelle de Boulogne. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour à vous.
Bon, vous travaillez, alors notre invité est dans l'événementiel, le luxe, la cosmétique, etc., les grands événements aussi institutionnels. Vous êtes, je crois, traiteur, hein, mon cher Jean-Baptiste. Hein.
Exactement, traiteur événementiel.
Oui. Alors,
un secteur compliqué. Hein.
Oui, compliqué, parce que je me souviens vous avoir eu il y a quelques mois au téléphone et vous aviez appelé en disant que vous aviez perdu quasiment tout votre chiffre d'affaires. Hein.
Complètement, on s'était réinventé et là, écoutez, c'est comme la journée d'aujourd'hui, le soleil est là, on voit le bout du tunnel ou presque. On garde espoir, on a eu de la chance, on a été super fusion pendant une partie de l'hiver. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est de retrouver nos clients, de refaire des beaux événements. Et on n'en est pas loin, là, je pense, non ?
Est-ce que le téléphone sonne à nouveau ?
Alors, le téléphone sonne un tout petit peu, et on recommence à avoir des gens qui nous font des demandes pour le mois de fin mai, début juin, des événements privés. On a quelques sociétés qui ont des projets, donc... on se dit que on va y arriver.
Oui, donc ça revient, vous le sentez. Comment vous avez fait, vous, avec votre personnel ? Donc il a bénéficié du chômage partiel. Là, vous allez reprendre les mêmes personnes ou pas ?
Alors, malheureusement, non. J'ai dû me séparer pour des raisons économiques. J'avais vraiment beaucoup perdu, donc j'ai dû me séparer de personnes dans mon entreprise. Ceux que j'ai gardés sont encore là. On a essayé de maintenir une activité parallèle qui était la vente à emporter. Hein. On valorisait les produits de nos agriculteurs. On faisait une cuisine renouvelée tous les jours. Maintenant, on repart à zéro. Hein. C'est comme si je recommençais mon entreprise comme il y a 5 ans quand j'ai ouvert. Quoi.
Ouais. Bon, bon courage à vous, Jean-Baptiste.
Hein. On en a plein.
Ça va repartir. Allez, du courage.
Un grand merci, à bientôt.
Merci, à très bientôt. Merci de nous avoir appelés. Et je le disais, Christophe Pinguet est avec nous, coprésident de l'agence d'événements Shortcut. Bonjour Christophe Pinguet.
Bonjour Cécile.
Bienvenue.
Ah oui.
Bonjour à tous les deux.
Oui, ce qu'on disait avec Jean-Baptiste, hein, c'est-à-dire que voilà, le téléphone commence à sonner pour certaines personnes qui envisagent. Vous, alors, pour résumer, vous travaillez avec les grandes marques, avec les événements d'entreprise aussi, comme l'évoquait Jean-Baptiste, et puis institutionnels, ouais, Panthéon, etc. Et là, ça sonne aussi chez vous, le téléphone, ou pas ?
Voilà, nous, ça n'a pas vraiment arrêté de sonner, parce que, vous le savez, à un moment, il a fallu... Il y a un mot qui est très à la mode, se réinventer. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Notre métier a toujours été porté par des opérations qui sont aussi des opérations digitales, c'est-à-dire des événements que l'on retrouve sur soit des plateformes, des sites internet. Donc, ça s'est vraiment mis en place pendant la crise du Covid. Et je pense qu'on a su relever ce défi de faire quelque part un peu votre métier, le métier de la télévision aussi, recevoir des publics autrement que de les rassembler en vrai, sur des plateformes pour les informer, pour que les entreprises les informent et fassent passer des messages. Alors, pour répondre à votre question, oui, le téléphone pour le présentiel se remet à sonner, parce qu'il y a des dates qui ont été proposées, qui sont mises en place pour le déconfinement et le déconfinement des événements. Et vous savez qu'on est très sensible et très réactif à ce genre d'informations, nos clients aussi, nos collaborateurs aussi.
Oui. Est-ce qu'ils ont envie, vos clients, de refaire des événements, de reproduire des événements bien en sûr, présentiel ? Ou alors, ils se sont habitués, pour certains, je pense à des grandes marques peut-être, à tout faire en digital, parce que ça réduit aussi les coûts, parfois.
Ça réduit les coûts, mais pas les émotions. Et donc, bien entendu, vous savez, en société occidentale, tout le monde a besoin de se retrouver, d'être ensemble, de partager des informations, des idées, des bons moments qui ne sont pas que festifs, des bons moments d'entreprise très sérieux. Donc le présentiel va revenir très vite, très haut. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête.
À quel horizon, ça ? Est-ce que vous le voyez là, dès le mois de mai, mois de juin, ou alors est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu ?
Fabriquer des événements, c'est souvent 3-4 mois. Donc je le positionne plus à début septembre, quitte à ce que ce soit aussi la fin de l'année, si c'est des très gros projets. Mais on a déjà pour cet été des demandes, des choses qui sont, des événements qui sont beaucoup plus sérieux, petits, pour respecter bien entendu toutes les mesures sanitaires.
Mais Christophe Minguet, est-ce que ça veut dire que ce que vous avez fait, hein, que ce soit les entreprises ou vous, de se réinventer pendant cette période de crise, finalement, c'est pas l'un qui va prendre le pas sur l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avenir est de dire, on va retrouver les grands événements et on gardera aussi tout ce qu'on a construit pendant le Covid.
Parce qu'on fait un métier qui est très proche des nouvelles technologies.
Oui.
Donc, dans les nouvelles technologies, il y a forcément le digital. On est tous hyper connectés avec des portables, des ordinateurs, des mobiles. Donc, bien entendu, le volet de communication, de révélation de ces événements, à la fois présentiels, seront aussi sur le digital. Toujours, c'est un principe de communication et une évolution normale du monde, de l'événementiel lié aux nouvelles technologies.
Comment stimuler la créativité ? Parce que c'est un métier de créativité. Forcément, vous avez aujourd'hui des équipes qu'il a fallu gérer. Comment vous pouviez aujourd'hui, pendant tous ces longs mois, justement, créer cette émulation ?
Voilà, je vais vous dire déjà quelque chose. C'est que je pense qu'une entreprise d'événementiel n'est rien sans ses équipes. Et c'est vrai qu'à Shortcut, on a des expertises qui sont assez extraordinaires et on a des personnes qui sont très extraordinaires. Le plus compliqué de cette période, c'est pas au chef d'entreprise de réinventer son entreprise. C'est aux collaborateurs de travailler sur leur employabilité. Et sur ça, je peux vous dire qu'il y a eu un travail extraordinaire de la part des équipes.
Mais est-ce que les choses vont changer, là, maintenant, sur le personnel ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de quitter l'événementiel, notamment parce que soumis à certains aléas, d'autres qui ne peuvent plus suivre aussi, parce qu'il y a cette digitalisation. Voilà, j'y arrive. et puis, au contraire, de nouvelles vocations.
Vous savez, c'est d'un métier de personnes qui sont passionnées. Et c'est des personnes aussi qui ont toujours inventé leur propre carrière, parce que c'est pas la crise qui a fait que notre métier est en perpétuelle évolution. Et donc cette perpétuelle évolution a été extrêmement bien captée par les collaborateurs. Vous savez, ce qu'ils ont subi, c'est assez pénible. On leur dit à un moment, vous ne venez plus dans votre entreprise, vous êtes en chômage partiel. Quand vous devez travailler, vous êtes en télétravail. C'est extrêmement compliqué pour eux de gérer tout ça. Et franchement, franchement, le pas en avant, je pense qu'on a gagné 5-10 ans.
Oui, oui. Parce qu'il y avait beaucoup de conventions, et là vous travaillez énormément là-dessus, pour les entreprises, pour les cadres, donc ils se sont habitués à faire ces fameux événements par Zoom et autres, bien sûr, l'ensemble des visioconférences. Et est-ce que, quand vous discutez avec les DRH, ils se disent, maintenant il faut quand même qu'on les fasse en physique, parce que les gens ont besoin de se voir, oui. Ou alors...
Bien sûr. En préparation, c'est forcément compliqué.
Ouais.
Et en réalisation, et donc en perception pour les entreprises, les personnes qui sont invitées par les entreprises, si on n'est qu'en Zoom ou sur des plateformes, c'est forcément compliqué. Quand on veut fédérer des publics, la meilleure solution, c'est d'être ensemble devant un speaker, devant un chef d'entreprise, devant un DRH, devant un directeur marketing, une responsable des relations publiques. C'est extrêmement... Ce facing est extrêmement important. Oui.
Vous travaillez beaucoup aussi à l'international. Aujourd'hui, évidemment, il y a des restrictions pour se déplacer. Vous pensez que ça va revenir là, dans le courant de l'été ou alors au contraire qu'il va y avoir quand même encore beaucoup de restrictions. Et puis, on évoque le pass sanitaire en question. Beaucoup de gens sont hostiles à ce pass sanitaire en se disant on va être fiché, contrôlé, etc. Il peut être adapté pour certains événements, c'est ce que vous dites.
Déjà, pour rassurer tout le monde sur ce pass sanitaire, enfin, je suis pas à l'origine du pass sanitaire,
mais on
a tous un téléphone avec une cinquantaine d'applications qui vous suivent à longueur d'année. Donc il faut peut-être un petit peu sortir de cette appréhension. Si vous regardez ce qui se passe à Dubaï, si vous regardez ce qui se passe dans les pays asiatiques, la Chine, etc., ce genre de pass sanitaire a favorisé le rebond et la reprise. Donc il faut peut-être
s'interroger
et se dire, est-ce que c'est pas la meilleure solution ?
Ouais.
Après, c'est
je
un
pense
choix.
Que oui. Et après, c'est un choix. Et voilà.
Non, mais et ce sera une véritable question hein, quand vous allez organiser de grands événements. Est-ce que pour rentrer dans une salle, par exemple, il faudra montrer un test PCR, comme c'est le cas aujourd'hui, ou alors montrer son pass certificat de vaccination ou pas ?
Toute organisation est liée à un devoir de sécurité avec une garantie de bonne exécution de ce devoir de sécurité. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire de mettre en place ces passes sanitaires. Je pense que dans le bon sens, il est nécessaire aussi aux usagers des événements, aux participants des événements, pour se sécuriser d'afficher le pass sanitaire. Ça me paraît
sur l'événementiel, en tout cas, sur tous ces grands rassemblements. Voilà.
Juste sur la solidarité, parce qu'on a vu, les restaurateurs sont extrêmement solidaires. On a vu beaucoup de restaurateurs déposer, malheureusement, définitivement le bilan, ce qui sera malheureusement le cas aussi dans votre secteur. Est-ce qu'il y a une solidarité ? Est-ce que vous vous entraidez ? Est-ce que vous vous parlez ?
Alors déjà, dans le secteur de l'événementiel, il y a une organisation qui est professionnelle, qui est assez extraordinaire, qui est l'événement. D'ailleurs, je salue les personnes du conseil d'administration de l'événement, dont je ne fais pas partie, qui ont fait un travail avec les pouvoirs publics d'exception. Et c'est certainement pour ça aussi que les pouvoirs publics ont compris quel était l'enjeu de l'événementiel et de la sauvegarde du métier. Donc oui, on se parle, c'est un métier de concurrence et de compétition, donc on se respecte, on se toise et on regarde ce que font les autres. Mais c'est vrai qu'il y a eu un esprit de solidarité entre les agences, très bien mené par cette association qui s'appelle l'événement, et quelque part, l'esprit de solidarité, sans faire de shoe-shining, je pense que l'État, les autorités ont été très présentes à aider notre secteur, comme celui de la restauration, comme celui de l'hôtellerie.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est
très rare. Ça permet de tenir.
Alors
qu'à l'étranger, il y a certains secteurs qui ont...
C'est terrible.
Merci beaucoup, Christophe Pinguet, co-président de l'agence événementielle Shortcut.
Ouais,
et puis, bon courage, bonne reprise, puisque ça redémarre pour vous, même si vous aviez maintenu un certain nombre d'activités.
Merci
et puis,
beaucoup.
Dans un instant, on va vous proposer, enfin, en tout cas, on va vous expliquer ce que c'est que le métier d'espion. Voilà, vous qui rêviez, Patrick, d'être un espion, d'avoir une double vie peut-être, de vous inventer une double vie.
Et
vous
alors,
allez voir
pas
que
simple,
la culture du secret, la culture du mensonge, et de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre qui est très différent de vous, c'est très compliqué.
Vous avez aimé le Bureau des légendes ?
Ah j'ai adoré.
Et alors vous allez adorer là aussi.
Il est là dans un instant, il s'appelle Olivier Mas, à tout de suite.